enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. C'est Jean chapitre 12. C'est la page 818. Jean-Marc ici, c'est juste après Jean chapitre 11 et juste avant Jean chapitre 13 pour t'aider un peu. Si tu vois Apolline en train de dormir là ce soir, tu lui donnes un petit coup de gueule, comme ça, exactement. Je ne veux pas qu'elle dort. Bon, qu'elle dort, ça va, mais qu'elle ronfle, non. Ça, je n'accepte pas. J'aime bien taquiner la sœur, elle aime bien. Parce que j'aime bien son sourire, c'est ça. Alors, on recommence. Jean chapitre 12. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort et qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare, était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il se met en peine pour des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Seigneur, merci pour ta parole. Je te loue de toutes mes forces. Viens, Saint-Esprit. Tu es déjà là, Seigneur. Tu étais là quand le groupe nous dirigeait dans la louange. Le frère Jean-François, quand nous dirigeait dans la louange, tu es déjà là. Seigneur, tu es là pour une raison, parce que tu veux toucher nos cœurs ce soir. Nous te louons de toutes nos forces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Ce qu'on va faire à la fin de la prédication, c'est on va prendre un moment de prier pour les besoins des gens. Et je sais que certains m'ont déjà dit qu'il y avait des besoins. Et puis après, on va revenir à notre place et on va faire un moment d'intercession. OK? Alors, quand on vient et quand on a l'appel et on prie pour les gens, sache que ce n'est pas la fin. Mais après cela, on va faire un moment d'intercession aussi. J'aime bien cette histoire ici. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ces histoires de Marie et Marthe, je dois avouer que le frère Jean-François, il m'a un peu inspiré. Parce que quand il parlait d'une suite de son message, de moi, je me dis, mais c'est bien quand tu as des suites. Alors, je vais prendre la suite. Je vais parler de deux sœurs. Ce soir, je vais parler de Marie. Le vendredi soir, je vais parler de Marthe. Alors, des deux, je dois avouer que peut-être Marthe, c'est plus facile pour moi de comprendre, parce que c'est une femme qui était activiste. Elle aimait bien faire des choses. Et moi, honnêtement, si j'étais dans la maison, je crois que je préfère que Marthe soit dans la maison que Marie. Et vous savez pourquoi? Parce que Marthe était dans la cuisine et Marie faisait, elle écoutait le Seigneur. Alors, plus tôt, on va manger. Moi, j'aime beaucoup manger. Et Marthe, oui, comme ça. Mais voyez ce qui se passe à cette époque. C'était juste avant la crucifixion. Jésus est entré dans la ville de Béthanie. Il était là avec ses amis. Il y avait beaucoup de courants qui couraient parce que là, il allait être crucifié, comme j'ai dit. Sa vie allait prendre fin. Il y avait des gens qui n'aimaient pas du tout, des dirigeants du peuple. Ils étaient jaloux, ils avaient peur qu'ils allaient perdre leur place. Et pour eux, ce qui comptait, c'était l'argent et la place. Et pour eux, le peuple, c'était une façon de gagner de l'argent et une façon de gagner de la gloire. Ça, c'est les dirigeants spirituels à cette époque-là. Et de l'autre côté, vous avez la foule qui disait, oh, c'est peut-être le Messie. Mais eux, l'adoration, c'était comme quelqu'un a dit, 1 kilomètre de grand et 1 centimètre de profondeur. Parce que pour rien de tout, ils se tournaient contre le Seigneur Jésus-Christ. Alors tous ces courants, les gens se demandaient, est-ce que c'est le Messie? C'est lui qui a ressuscité Lazare, qui est ici dans cette histoire, le frère de Marie et Marthe. Il a ressuscité d'entre les morts. Et là, est-ce que c'est vraiment celui que Dieu a envoyé? Et oui, les disciples, ils étaient là à table avec Jésus, avec Lazare, avec Simon le lépreux. Je suppose qu'il avait été guéri, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais j'ai l'idée qu'il mangeait. Parce que, vous savez, je trouve qu'il y a des choses que des pasteurs font bien. Ils mangent très, très bien. D'abord, comme tu dis, ils aiment le Seigneur, mais ils aiment bien manger aussi. Alors, tous ces pasteurs, tous ces apôtres et Jésus, ils étaient là à table, en train de manger, en train de parler, en train de causer. Et c'est bien ça. Moi, je crois que c'est une chose même spirituelle quand on a un temps ensemble pour parler, pour partager notre cœur, pour partager les choses du Seigneur. Il n'y a rien de mauvais là-dessus. Mais il y avait une femme qui était là. Et son cœur était rempli de toutes sortes de choses cette nuit-là. Elle s'appelait Marie. Marie, c'était une femme, je ne sais pas si c'est vraiment un don de l'esprit ou non, mais si Marie avait un don, c'était le don d'adoration. Chaque fois que vous voyez Marie dans la Bible, presque, elle est au pied du Seigneur. La première fois qu'on voit Marie, elle est au pied du Seigneur, en train d'écouter sa prédication, en train d'écouter ses enseignements. Et là, Marthe, elle vient. Elle est dans la cuisine, Marthe, comme j'ai dit, en train de faire. Et je le presque vois avec son tablier de cuisine, là. Elle a un peu de farine sur le nez. Les cheveux sont un peu à droite et à gauche parce qu'elle est en train de marcher à droite et à gauche et faire. Et s'il y a avait des servants qu'il y avait probablement vous faites ça, et tout d'un coup elle s'est rendue compte, Marie n'est pas là. Les petites sœurs, elles ne vont rien de tout, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a beaucoup de petites sœurs parce qu'il n'y a personne qui a dit amen. Amen. Les grandes sœurs doivent tout faire. Les grandes sœurs doivent tout faire. La petite, où est-elle Marie? Voilà, elle est là au pied du Seigneur, en train d'écouter son enseignement. Et Jésus a dit, il n'a pas vraiment reproché Marthe, mais il a dit, Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses, mais une chose est importante, et Marie a choisi la bonne part. Deuxième fois qu'on voit Marie, c'était un moment très, très difficile. Son frère venait de mourir. Mais le pire, c'était qu'ils avaient envoyé un messager au Seigneur. Et c'est de cela qu'on va probablement parler le vendredi soir. Un messager au Seigneur. Seigneur, viens nous aider. Lazare est en train de mourir. Ils attendaient qu'il vienne tout de suite. Qu'il vienne le guérir. Et à mon avis, il avait le temps de le faire. Parce qu'évidemment, le messager est revenu avant que Jésus soit venu. Et Marthe veut aller et disait, Seigneur, Dieu, écoute, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais quand même que tu es celui qui a été envoyé du Seigneur. Quelque chose comme ça. Et puis, Marie vient. Elle pleure. Elle se jette aux pieds du Seigneur de nouveau. Et elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Point final. Point final. Alors, quand je lis l'histoire, je me dis, mais Marthe, on le traite de quelqu'un qui n'était pas très spirituel, mais c'était elle qui avait la foi. Mais j'aime bien la franchise de Marie. Marie était très franc. Marie était très ouverte et disait ce qui était dans son cœur. Je crois que c'est le caractère d'une personne sensible. Et Marie disait, Seigneur, en effet, où étais-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Et moi, je suis content, parce qu'il y a des choses, des fois, des choses arrivent dans ma vie que je ne comprends pas de tout. Des fois, il m'arrive des choses, il me semble que, disons, je ne vois pas pourquoi un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui aime le Seigneur doit subir cela. Je viens de vous dire que cette sœur Joyce, elle est morte. C'est une femme qui a passé, c'est une femme de missionnaire, si vous voulez, qui avec son mari avait servi des années comme missionnaire. Et puis, quand ils avaient le temps, l'occasion de rester pour prendre la retraite dans le pays, pour vraiment être à l'aise, au lieu de faire faire ça, ils sont revenus en Europe pour être pasteurs ou missionnaires qui étaient ici pour encourager des autres. Et Joyce, elle avait des petits-enfants, elle avait de la famille, elle commençait d'avoir, bon, elle n'était pas âgée, quoi, 67, 68, 69, par là, et que les années commençaient de s'accumuler, et là, elle voulait être avec ses enfants, ses petits-enfants ces dernières années. Alors, elle venait de rentrer au pays. Et quand elle rentre au pays, presque tout de suite, il trouve un cancer. Et 2 mois plus tard, elle est morte. Et quelque part au moins, j'ai dit, Seigneur, ça, je ne comprends pas. C'est comme ça que tu récompenses tes serviteurs. Écoute, moi, je sais de tout mon cœur dans le grand schéma, si vous voulez, des choses. Joyce, elle est beaucoup mieux que nous maintenant parce qu'elle est avec son Seigneur. Et toute sa vie a été vécue pour le pauvre. Mais du point de vue humain, des fois, on veut se mettre au pied du Seigneur. On dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Et Jésus avait été même touché, un peu peiné par son attitude, mais au moins, elle était franche et honnête. Et mes amis, je suis content que je peux être honnête avec le Seigneur. Je me souviens d'une fois, j'ai prié, et ce n'est pas une prière que je recommande de tout, mais j'avais un moment où tout allait mal, il me semblait. Pas des grandes choses, mais Jean-Claude, il me semble que chaque fois que je priais, le contraire arrivait. Alors, tu sais que ça ne t'arrive jamais, mais moi, ça m'est arrivé. Alors, j'étais là, et un jour, j'ai dit, oh là là, j'en avais jusque-là. Alors, je me suis mis à genoux, et j'ai dit, écoute, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je vais dire, mais je dois te dire, Seigneur, ta parole dit ceci. Et voilà ce qui arrive. Et ta parole dit cela. Et voilà ce qui arrive. Et ta parole dit cela. Et voilà ce qui arrive. Et ta parole dit cela. Et voilà ce qui arrive. Et j'ai répondu toute cette amertume. Dans l'amour, c'était parce que j'ai dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais je ne comprends pas, voilà ce qui m'arrive. Et toute cette amertume, c'est comme si vous lancez une plaie là, et l'infection, le pus, ça sort, et puis devant le Seigneur. Et puis, Walid, j'attendais un peu que le Seigneur jette une éclair de foudre sur moi, quelque chose comme ça. Je dis, oh, y a, parce qu'on ne parle pas au Seigneur comme ça. Et ce n'était pas sans respect. Mais quand même, j'étais très ouvert au Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé? C'était la dernière chose que j'attendais. J'aurais cru que le Seigneur me tape un peu, ou bien qu'il réponde à toutes mes prières. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Mais c'était comme l'huile qui est descendue sur moi. Tout d'un coup, j'ai senti la présence du Seigneur. C'était comme s'il me prenait dans ses bras et il me serrait tout près de lui. J'ai pleuré comme un enfant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti la présence du Seigneur comme ça. Alors le Seigneur, il n'est bon, pas la suite, les prières, ça s'arrangeait parce que normalement ça s'arrange de toute façon. Mais ce qui m'était tellement cher, c'était que le Seigneur m'a permis d'être honnête devant lui. Alors, on ne peut pas faire ça tous les jours. Francine, j'ai essayé ça après, ça n'a pas marché. Alors, David, une fois, ça suffit, mais pas tous les jours. Hein. Et mais c'est vrai, parce que si on fait ça, si on rouspète tous les jours, on est le stronf-grognon et on n'est pas vraiment un serviteur du Seigneur, n'est-ce pas? Mais Marie, elle était honnête, elle était franche devant le Seigneur. Et puis, cette troisième fois, on le voit d'une manière incroyable. Si tu avais été là ce soir-là, ta bouche aurait été ouverte comme ça, tes yeux auraient été ouverts comme ça. Parce que vous savez, le parfum qu'elle a mis sur la tête et aussi sur le pied du Seigneur, c'était un parfum qui coûtait le salaire d'un ouvrier, tout le salaire de toute une année. Alors, j'ai même regardé sur Internet le salaire moyen d'un Français ouvrier en 2004, c'était 23 087 euros. Alors, admettons qu'après qu'ils ont enlevé les impôts, il vous reste 2000 euros, quelque chose comme ça, après cela. Peut-être un peu plus que 2000 euros, pas beaucoup. Non, mais admettons que c'était le valeur d'un salaire d'un ouvrier. Ce qu'il répondait sur Jésus valait, dans notre argent, peut-être 15 à 20 000 euros. Vous imaginez quelqu'un qui vient ce soir, qui répond le Chanel numéro 5, je ne sais pas ça, ça ne coûte même pas autant que ça, toute une bouteille, tout un seau de Chanel numéro 5 sur notre tête, et ça ne vaut même pas ça. Ça ne vaut même pas ça. Mes amis, c'était incroyable. À mon avis, et je n'ai pas lu ça, mais à mon avis, à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas des banques, comme nous comprenons, je suppose, je crois que beaucoup de gens riches avaient des choses cachées contre un jour où ça ne va pas, ou bien peut-être là, à côté, quelque part. Et à mon avis, c'était comme un compte bancaire au cas où. C'était la richesse de la famille. Qu'est-ce qui l'a poussé de venir ce soir-là et répandre tout ça sur le Seigneur Jésus-Christ? L'adoration. C'était une femme qui voulait remercier le Seigneur parce qu'il avait ressuscité son frère. Et elle aimait beaucoup son frère. Après la résurrection, des questions sur qui était Jésus, tout ça a été fini. Marie était 110%. Il est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Mon cœur est à lui. Et elle avait un amour tellement grand. Ce n'était pas l'amour d'une femme pour son époux. Ce n'était pas l'amour d'une fille pour un garçon. Mais c'était l'amour d'une servante, une fille pour son Père céleste qu'elle aimait de tout son cœur. Mais il y avait encore plus que ça, parce que je crois que là, dans ce banquet, je ne peux pas m'empêcher, Pasteur Jean-François, de penser que là encore, Marc était dans la cuisine et Marie n'était pas là, parce que Marie, elle avait d'autres choses qui passaient dans la tête. Je sais pourquoi Marie n'était pas mariée, parce que son mari n'aurait jamais mangé, cette femme. Elle est toujours en train de louer le Seigneur. Mais peut-être, ça c'est mon petite idée, de toute façon. Les filles, écoute, je vous donne un conseil. Si vous ne savez pas faire la cuisine, et il faut vraiment un métier parce que vous risquez. Les hommes, ils aiment bien les filles qui font de la cuisine. Amen, les hommes? La plupart, ils n'osent rien dire. Ils ont peur. Hein? Vous êtes des lâches, vous, les hommes. je plaisante, bien sûr. Mais Marie, elle était là. Il y avait des choses qui bouillonnaient dans son cœur parce que c'était l'adoration pour le Seigneur. C'était l'amour pour le Seigneur. Mais c'était plus que ça parce que je crois que Marie avait une révélation du Saint-Esprit que beaucoup de gens dans cette pièce n'avaient pas. Lazare, il aimait le Seigneur parce qu'il avait ressuscité. Marthe aimait le Seigneur parce qu'il s'est montré fidèle et il avait ressuscité son frère. Les disciples aimaient le Seigneur, mais eux, ils se préparaient d'être des princes de pays maintenant, parce que Jésus était le Messie, ils croyaient que eux, ils vont remplacer les autres grands, et ce sera eux les grands. Ils ne savaient pas tout de suite que c'était un royaume spirituel que Jésus emmenait d'abord. Mais il y avait une personne dans cette pièce, dans cette salle ce soir-là, qui avait une révélation. Parce que Jésus a dit que l'onction qu'elle a faite, c'était à cause de l'enterrement. Et quelque part, Marie, elle savait qu'elle était le courant. C'était évidemment une famille riche qui avait probablement des amis riches qui savaient ce qui se passait dans les cercles importants là. Et sans doute, elle avait eu des échos des gens qui voulaient tuer le Seigneur, des gens importants. Mais plus que cela, le Saint-Esprit agissait dans son cœur et dit: Marie, maintenant c'est le temps, maintenant c'est important, tu fais une offrande, tu fais un sacrifice comme tu n'as jamais fait auparavant. C'est pour cela, mes amis, vous savez, on donne la dîme au Seigneur Jésus-Christ, mais j'aimerais bien qu'on fasse plus que payer le dîme, parce que moi, je paye la facture de l'électricité, mais pour moi, quand je donne au Seigneur, ça va au-delà, je ne peux jamais payer ce que Jésus a fait pour moi. Mes amis, la seule chose que je peux faire, c'est répandre mon cœur devant lui, répandre ma vie d'une manière pratique, matérielle, mais aussi spirituelle. Tout ce que j'ai, Seigneur, ça t'appartient. Ça t'appartient. Et là, quand elle a répandu ce parfum sur le Seigneur, vous savez pourquoi le Saint-Esprit l'a poussé de faire ça? Moi, je crois que ça montrait la signification spirituelle de ce qui allait arriver. Jésus a dit que c'était contre son ordre. Elle, si vous voulez, elle a commencé de l'embaumer et elle avait commencé de mettre le parfum qu'on fait fondre les Juifs sur les morts. Et par l'esprit, elle voyait déjà Jésus mort et peut-être ressuscité même pour nos péchés. Mais elle le voyait, elle le savait. Et pour cela, le Saint-Esprit indiquait en avant que la mort de Jésus avait une signification qui était tellement riche et tellement importante. Parce que ce parfum n'était pas un parfum que vous voyez tous les jours. C'était un parfum que les choses avec lesquelles ils ont fait ça, ça vient des Indes, des Himalayas, les montagnes là. Et c'était un parfum qui était vraiment, vraiment riche et cher. Et là, ça remplissait toute la pièce où ils étaient. Il n'y avait personne qui ignorait le fait que cette femme avait fait cela. Parce qu'ils sentaient ça. L'odeur était là. Son amour était là, répandu sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça a marqué le Seigneur. Ben après, j'imagine pour les jours après cela, quand Jésus passait tout près de quelqu'un, il sentait toujours l'odeur. Parce que ce parfum que cette femme avait mis sur lui était toujours là. L'odeur était là. Et mes amis, ça marquait, ça mettait Jésus à côté dans les yeux des autres. Parce que quand il est mort à la croix de Calvaire, sa mort n'était pas comme les autres. On dit que la grandeur de la croix, c'était que Jésus a souffert. Mais je vous pose une question. Il y avait combien de gens à l'époque des Romains qui sont morts à la croix? Jésus était le seul? Il y en avait combien? Ce jour-là, deux autres, mais dans les 50-100 ans que les Juifs étaient là, les Romains, il y avait combien de morts, vous croyez, dans le monde, par crucifixion? Moi, je dirais, on risque d'avoir des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de gens qui sont morts à la croix de Calvaire. Mais vous croyez que Jésus était le seul qui est mort injustement? Si on lit les histoires de cette fois, ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui sont morts injustement. Vous croyez que Jésus est le seul qui a beaucoup souffert quand il est mort à la croix de Calvaire? Non. Il y avait beaucoup de gens morts à la croix qui a souffert horriblement. Si vous lisez les histoires des crucifixions, c'était horrible et qui sont morts injustement. Injustement. Alors, qu'est-ce qui a mis à côté ce que Jésus a fait? Pourquoi c'était différent? Pourquoi on dit Jésus, c'était tellement spécial, c'était tellement à part que lui, il est mort. Et quand Joseph de je ne sais pas où, il est mort, est-ce que ce n'était pas aussi important? Quelle est la différence quand Jésus est mort à la croix de Calvaire? C'était qui il était, c'était ce qu'il faisait. Mes amis, aussi horrible qu'il était des clous dans ses mains, aussi horrible qu'il était des meurtrissures sur son dos, aussi horrible la souffrance qu'il a supportée, aussi humiliant ce qu'ils lui ont fait, ce n'était rien. Ce que vous voyez, si vous étiez là, n'était rien à côté de ce qu'il a souffert spirituellement. J'ai vu ce film, La Passion de Christ, et je l'ai vu une fois. Je n'ai pas eu le courage de le revoir. Je voulais le voir, mais depuis, je n'ai pas eu le courage de le revoir. Parce que ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. C'était horrible, enfin. Mais mon ami, je vais vous dire quelque chose. Ce que Jésus a souffert dans son corps physique n'était rien en comparaison à ce qu'il a souffert spirituellement. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés, qu'il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies. Vous imaginez, j'ai probablement dit ça déjà, mais la chose que vous avez fait la pire, la chose que si on racontait ça, que vous avez fait ça, vous serez honteux ce soir. Vous aurez honte. Vous ne voulez même vous montrer le visage de nouveau. Tellement vous aurez honte à cause de ce que vous aviez fait. Et si quelqu'un le savait, la honte que vous... Jésus, il portait cela dans son corps, dans son être, à la croix de Calvaire. Tous les péchés, même le péché d'Adolf Hitler. Ça ne veut pas dire qu'Adolf Hitler était sauvé. Il faut se repentir, bien sûr. Mais tous les péchés ont été portés par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il a dit cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi le Père était, ça lui plaisait que Jésus a souffert comme ça? Alain, parce que c'était la souffrance de Jésus qui était la seule façon que nous pouvions être sauvés. Moi, autrement, je peux souffrir pour mes propres péchés, mais la seule façon d'expier mes péchés, c'est de passer une éternité en enfer souffrant pour mes péchés. Moi, j'étais injuste. J'avais fait des choses contre la parole de Dieu. J'avais désobéi à la parole de Dieu et j'étais sous la sentence, j'étais sous la condamnation. J'étais objet de la colère de Dieu, mais comme j'ai prêché il y avait quelques semaines de cela, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour avec lequel il nous a aimés, même quand nous étions morts dans nos péchés, il nous a fait vivants, ressuscités avec le Christ. Mes amis, ce que cette femme a fait ce jour-là, quand elle a offert ce sacrifice tellement cher, quand elle a mis sur le corps de Jésus, elle a marqué Jésus, elle a marqué sa mort, elle a marqué ce qu'il faisait en disant c'était différent ce qu'il faisait Jésus. Ce n'était pas comme la mort des autres. Lui, l'agneau de Dieu, désigné dès avant la fondation du monde, choisi pour Dieu, par Dieu le Père, pour souffrir pour nos péchés, pour mourir, pour être l'agneau qui prend notre place. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez bien l'histoire. Il y avait des litres, des millions de litres de sang des bêtes qui ont coulé dans le temple de Jérusalem pour essayer d'expier le péché du peuple. Mais ça ne faisait que couvrir le péché. Mais mes amis, la Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le temple plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est-à-dire, Jésus n'est pas sacrifié perpétuellement. Cet sacrifice ne continue pas. Une fois, ça suffisait. Amen. Ce sang de Jésus-Christ a expié nos péchés, mes amis. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la purité de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Mes amis, cet acte de Marie nous aider à comprendre ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire. Ce n'était pas la mort de n'importe qui. C'était la deuxième personne de la Trinité. C'était le Fils de Dieu vivant, celui qui a dit le monde, le mot et les mondes existaient. C'était Jésus, le Créateur, qui était là à la croix de Calvaire, le Créateur qui est mort pour sa création. À la croix. Pour toi et moi. Et ce soir-là, Marie, d'une manière consciente, elle n'a pas compris tout ça. Mais je suis persuadé que dans son esprit, ça remuait. Il y avait quelque chose là. Elle était touchée. Elle savait que Jésus, qu'il y avait quelque chose là. Et elle a oint en obéissance au Saint-Esprit avec une offrande qui était terriblement chère, terriblement précieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des critiques. Il y a toujours des critiques quand on donne tout notre cœur au Seigneur, n'est-ce pas? Oh, vous êtes vous êtes devenu fou maintenant. Vous êtes chrétien. Qu'est-ce que vous êtes? Mais voilà ce que les chrétiens ont fait. Voilà les guerres à cause de. Amen. Et même dans l'église, des fois, nous ne comprenons pas qu'un autre, peut-être, il pleure. Un autre, il est joyeux. On critique. Vous savez qui était le leader des critiques? Judas. Qui ne me surprend pas de tout. Judas, c'était l'avare. Judas, c'était le voleur. La Bible, Jésus a dit, un de vous, c'est un diable. Et c'était Judas. Vraiment, c'était un diable. Un voleur qui avait perdu sa relation avec le Seigneur. Il était toujours là. Le Seigneur le savait. Mais il disait, mais c'est un genre. Oui, c'est pas fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous faites là, madame? Mais vous êtes dingue, vous êtes insensé. Mais on aurait pu vendre cet argent. Regarde le bien qu'on aurait fait avec tout cet argent. Vous voyez tous ces pauvres qui souffrent et vous gaspillez de l'argent comme ça en louant le Seigneur. C'est un gaspillage, ça. Et il pensait, oui, j'aurais bien aimé ça. Je m'aurais acheté une petite Porsche avec ça. Bah, 20 000 euros, je ne crois pas, mais ça commence. Ce n'est pas ça qui me tracasse. C'était ces autres. Parce que si vous mettez le récit de Marc et Jean ensemble, vous voyez que l'un, c'était Judas qui parlait, et l'autre, c'était eux, ils ont parlé. Alors, évidemment, c'était Judas qui commençait de critiquer. Et les autres disent, oui, il a raison. Mais c'est insensé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Etc. Et je me dis un jour, si Judas, Jésus l'a appelé un diable, ces gens-là, ils étaient en train de dire amen au diable. Des membres de l'église du Seigneur Jésus-Christ qui entendaient des critiques et qui disaient amen, amen, amen. Mes amis, attention à qui vous dites amen, parce que vous pouvez être en train de dire amen au diable. Cet amen-là, non. Merci, Francine. Alléluia. On voit bien, c'est la sœur de son frère. Amen. Mais mes amis, attention. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qu'on ne comprend pas. Et des fois, mais aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Vous savez, il y a des gens dans l'église, des fois, que même le propre maman a mal de les aimer. Et le Seigneur nous dit, aimez-les. Comme moi, je vous ai aimé. Et la seule façon que nous pouvons nous aimer comme ça, écoute, ce n'est pas une critique. Moi, j'aime bien cette église et je vous aime de tout mon cœur. Et je dis, bon, je commence à vous découvrir. J'aime bien, vous êtes chouette, chacun que j'ai rencontré. Mais je dois admettre que j'ai été dans d'autres églises, pas cette église-ci, mais dans d'autres églises. Et il y avait des gens qui étaient d'un caractère un peu difficile. Et je voulais qu'ils aillent au ciel et je voulais vraiment qu'ils soient nés de nouveau. Mais disons, s'ils sont au ciel, je préfère que moi, je sois là de cette partie du ciel et eux, ils seront de l'autre partie du ciel. Et ce n'est pas que je ne les aime pas, j'aimais beaucoup, mais ils avaient un caractère un peu difficile. Je sais que vous ne connaissez pas des gens comme ça, vous. Chien et chat. Mon fils aîné et ma fille, ce qui était le troisième. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient, ces deux-là. Je crois qu'ils étaient trop semblables. Mais c'était, Sandrine, c'était chien et chat. Vraiment, Steve et Christy. Steve, il aimait bien taquiner. Oh, c'était le champion des embêteurs, le champion des casse-pieds. Et Christy, ah là là, il ne fallait pas beaucoup la taquiner parce qu'elle explosait tout de suite. Et il le faisait exprès pour qu'elle s'explose. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'étais en train de taquiner Christy et elle s'est fâchée un peu avec moi. Elle dit, papa, arrête, tu es pire que Steve. Et j'ai presque pleuré parce que je savais pour elle, il n'y avait rien de pire que Steve. Hein? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est vrai que certains sont tellement faciles à aimer. Certains ne sont pas si faciles à aimer. Mais mes amis, par l'amour de Jésus et à cause de Jésus, aimons-nous les uns les autres. Parce que j'ai parlé d'être honteux. Je pourrais vous raconter des choses de David. Donc moi, je ne suis pas du tout fier. Et je devais aller au Seigneur Jésus-Christ et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis planté royalement. Excuse-moi l'expression, mais je me suis royalement planté. Et il m'a accepté. Ce n'était pas parce que j'étais aimable. Je suis sûr qu'il était peiné et blessé par mon péché. Mais il m'a pardonné et il m'a aimé. Il ne m'a pas chassé. Et je me dis, si le Seigneur Jésus m'aime comme ça, moi, j'ai mon frère, j'ai ma soeur comme ça. Alors, et je termine avec ceci. Notre réaction, M. Matthieu Henry, j'aime bien ce qu'il a dit. Et Christ a-t-il répondu son âme jusqu'à la mort pour nous? Et nous, est-ce que nous allons-nous croire qu'il y a quelque chose de trop précieux pour lui, c'est-à-dire pour lui donner? Est-ce que nous lui donnons le parfum précieux de nos meilleures affections? Aimons-le de tout le cœur, malgré le fait qu'il est normal que le zèle et l'affection soient mal compris et blâmés. Et souvenons-nous que la charité aux pauvres ne nous excuse pas des actes de piété destinés au Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement, la question devant nous ce soir, Seigneur, quelle est notre réaction à toi? Est-ce que je me donne à 100%? Et je vous dis honnêtement, si vous vous donnez au Seigneur à 100%, il y aura des sacrifices. Il y aura des sacrifices. Moi, je ne suis pas sauvé par des sacrifices. Et si j'essaie d'être sauvé par des sacrifices, ça, ce sont des œuvres mortes. Moi, je ne fais pas des œuvres pour être sauvé. J'obéis au Seigneur en faisant du bien parce que je suis sauvé. Et ça fait toute la différence, mes amis, entre la vie et la mort. Mais ce soir, si on veut vraiment toucher la ville pour le Seigneur Jésus-Christ, il va falloir des sacrifices. Il va falloir du temps dans la prière. Il va falloir du temps dans le témoignage. Il va falloir vraiment des sacrifices d'efforts et même bien des fois. Il va falloir dire, Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais je te donne toute ma vie, tout ce que je suis. Parce que je vois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité, que tu m'aimes de tout ce que tu es. Et toi, si tu as donné 100% pour moi, comment ose donner 10% pour toi, 50% pour toi? Comment oserais-je dire, Seigneur, écoute, je te donne presque tout, mais ce péché-là, je garde. Je ne peux pas quitter ça. Cette personne, cette situation, c'est trop pour moi. Je ne peux pas, écoute, je le garde. Comment puis-je dire, Seigneur, écoute, je ferai tout ce que tu me demandes à faire, mais pas ça, pas ça, pas ça. Vous savez, la seule chose la plus difficile, je crois, que j'ai jamais fait de ma vie, c'était quand nous avons quitté nos enfants pour revenir en Europe. Un ami il m'a dit le samedi, David, tu es foncé maintenant, n'est-ce pas? Et je dis, oui, je suis bien ici, mais la seule chose, c'est les enfants, les petits-enfants. Wow! Et combien de fois j'ai pleuré. Mais j'ai dit à ma femme un jour, tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent, mais je suis content que nous avons quelque chose de beau d'offrir au Seigneur. Nous avons toute une éternité de passer avec nos enfants parce que tous les enfants, nos enfants, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je crois de tout mon cœur, tous mes petits-enfants vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons toute une éternité. Mais pour ce que le Seigneur m'envoie à faire en France, on n'a pas toute l'éternité. On a un petit temps. On ne sait pas. Et mes amis, je ne crois pas que le Seigneur me demande plus qu'il vous demande aussi. Parce que vous pouvez rester dans la maison où vous êtes né, mais le Seigneur, il vous demande 100%, 100%. Est-ce que vous allez ce soir faire une offrande, au Seigneur Jésus-Christ. On a déjà passé le panier, le sac, là, vos offrandes matérielles, elles sont déjà faites. Ce n'est pas pour cela qu'on parle ce soir. Je parle de ta vie. J'aimerais bien savoir si vous voulez vous mettre dans le panier d'offrandes ce soir. Si vous voulez dire, Seigneur, si tu veux que je reste ici, je le ferai. Si tu veux que, parce que pour certaines, rester, c'est plus difficile que partir. Si tu veux que j'aille ici, que j'aille là, si tu veux que je fasse ici, que je fasse là, si tu veux que je parle avec cette personne ou je prends cette personne chez moi pour essayer de le gagner pour le Seigneur, ou si tu veux que je fasse partie des équipes d'évangélisation, ou si tu veux que je commence quelque chose parmi mes amis pour essayer de les gagner, Seigneur, je suis à toi.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.